RMC.
PLM, tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'After, c'est parti pour deux heures de bonheur. On est ensemble jusqu'à minuit, le compte est bon. Au sommaire de cet After, la suite de la 26e journée de Ligue 1, la victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à Nîmes, la victoire d'Amiens 1-0 face à Nice, et puis la victoire de Guingamp aussi très importante 1-0 face à Angers. On est aussi à J-1 avant le derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool, match très important. Alors c'est vrai qu'au-delà de la teneur historique de ce match, de la teneur symbolique aussi, c'est un match qui sera aussi très important au niveau du classement, puisque Liverpool joue la première place, et puis Manchester United une place dans le top 4 qualificative pour la Ligue des Champions. Messi qui déroule avec le Barça face au FC Séville, on sera avec Fred Hermel pour en parler, Julien Laurent sera avec nous pour l'Angleterre bien sûr, et puis toute l'actu du foot du jour, que ce soit d'ailleurs à l'étranger ou en France. Avec nous ce soir, Prince Ali est là, il est au Parc des Princes cet après-midi, c'est chez lui quoi, dans son parc, le Parc des Princes, le Parc du Prince
exactement,
Ali quoi.
Exactement, où il a fait un climat exceptionnel,
des températures idéales pour jouer au football.
C'est un régal.
C'est bien ?
Ouais, c'est très bien, c'est sympa.
Jonathan Macardy qui n'était pas au Parc des Princes cet après-midi.
Non. Salut Nico, salut Ali.
Salut Jonathan.
T'es jamais au parc ?
Si, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive, j'étais allé voir jouer contre Rennes.
Je vais le prendre avec moi la prochaine fois.
Hein. On risque de se faire caillasser.
Pourquoi?
j'y vais. Par exemple, là, le match contre Rennes, c'était très agréable. Ça m'arrive. Je le reconnais.
Tiens, je vous donne quelques résultats à l'étranger également. 25e journée de Première Ligue. Tottenham a perdu 2-1 à Burnley. On en parlera tout à l'heure avec Julien Laurence. On vous rappelle que demain, il y a ce fameux match entre Manchester United et Liverpool. 25e journée de Liga, le Barça. Match spectaculaire face à Séville. Victoire 4-2 avec notamment un triplé de Léo Messi. Le Bayern a battu le Hertha Berlin 1-0. Gladbach s'est incliné à domicile 3-0 face à Wolfsburg. Et puis match également un peu fou entre Frosinone et la Roma. Ça, c'est en Italie. La Roma qui était mis 1-0, il reste 20 minutes à jouer dans ce match, et la Roma qui mène 2-1. Sachez que ça joue entre Bilbao et Eibar, et l'Athletic Bilbao mène 1-0, il reste une demi-heure à jouer dans ce match-là. Et autre petit résultat également en Angleterre, le Leicester de Claude Puel a perdu 4-1 face à Palace. Vous savez que Claude Puel est dans la tourmente, hein, il est menacé depuis pas mal de temps déjà, c'est ce que disent du moins les bookmakers et certains journalistes anglais. Et bien il est dans la tourmente, Claude Puel. Il y a aussi du rugby ce soir, 17e journée du top 14 entre La Rochelle et le Stade Français. Nico Paul Orsi est au stade Marcel de Flandre. Salut Nico.
Salut After, salut à tous. Salut, c'est Nico. Une énorme surprise ce soir sur la pelouse de Marcel de Flandre. On a atteint l'heure de jeu, 25-9 pour le Stade Français sur la pelouse de La Rochelle. On rappelle que La Rochelle est 3ème du championnat, le Stade Français 6ème, et La Rochelle est en train de se faire atomiser, pulvériser dans tous les compartiments du jeu. Il vient d'y avoir un 3ème essai inscrit par les Parisiens en contre par le demi de mêlée Pete Van Zyl. La Rochelle n'y est pas, c'est une véritable faillite collective ce soir, 25-9. Il reste 20 minutes pour essayer de se refaire, mais le retard accumulé semble trop important pour que La Rochelle revienne dans cette partie.
Merci beaucoup Nico. Tiens, avant de débuter par les 3 points, je vous donne vite fait le classement quand même de cette Ligue 1. Le PSG donc qui bat Nîmes 3-0, le PSG leader, ça vous le saviez. Les Nîmois qui restent 11e avec 36 points. Guingamp qui bat Angers 1-0. Guingamp reste dernier, mais Guingamp revient à 2 points seulement de la place de barragiste qui est occupée aujourd'hui par Dijon avec 20 points. Et puis Amiens qui bat Nice 1-0, ça aussi c'est un résultat important pour le maintien, puisqu'avec ce résultat, Amiens est 16e et Amiens compte 24 points, donc 4 points de plus que Dijon qui est barragiste. La course au maintien qui est complètement relancée. Et on commence cet After par le plus important, par les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Commence par tes 3 points, Ali.
Oui. Premier point, Mbappé. Il est en train d'affoler les compteurs au niveau des buts de Ligue 1. Et déjà, au bout de sa deuxième saison au Paris Saint-Germain, c'est possible qu'il puisse s'approcher du record de Carlos Bianchi et d'Ibrahimovic. C'est assez impressionnant.
Deuxième point.
Je reste encore sur quelque chose d'excitant qui est cette bagarre du maintien où on aura 6-7 équipes. Et Guingamp se remet dans la course. Amiens continue à gratter des points. Et quand avec notre ami Roland Courbis va falloir s'y mettre aussi. Donc la course au maintien a commencé très tôt cette année et il va y avoir des rebondissements sur rebondissements.
Il t'en manquait un.
Troisième point. Je laisse Jonathan.
Il est hors chrono, du coup, il l'avait pas. Bon. Ah, il est malin, le Les trois points,
premier point, c'est évidemment Kylian Mbappé, qui, malgré un match un petit peu poussif avec beaucoup d'occasions ratées, bah voilà, c'est là où on est Kylian Mbappé, c'est-à-dire un joueur déjà très dominant dans le paysage footballistique actuel. Match moyen, mais ça finit avec un doublé et puis une victoire tranquille du Paris Saint-Germain cet après-midi avec un beau Nîmes quand même, il faut le souligner, pendant la première demi-heure. Deuxième point, bah, c'est sur Amiens. Écoute, je trouve que Christophe Pélissier est récompensé. Il a eu des compositions d'équipe avec quatre joueurs très offensifs. Il s'est dit que ça allait jouer comme ça. Et puis voilà, ils gagnent. Ils se remettent la tête à l'endroit. Ils sont pas mal depuis janvier. Moi, je trouve qu'Amiens va se maintenir tranquillement. Et le troisième point, c'est Guingamp avec cette victoire inespérée qui revient quand même dans la course pour la place de barragiste. Donc c'est à noter, même si la performance était quand même pas très saillante ce soir.
Tiens, avant de vous donner mes trois points, j'en profite pour lancer un appel aux supporters de l'OM, pas qu'aux supporters de l'OM d'ailleurs, on en débattra tout à l'heure. C'est vrai que demain il y a Rennes-Marseille, Rennes qui est qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League. On vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que l'OM est guéri? Ils sont sur une bonne dynamique, trois victoires d'affilée. On écoutera Julien Stéphan notamment qui dit que bah justement les Marseillais sont plutôt pas mal en ce moment. On vous pose cette question, est-ce que vous pensez que l'OM est guéri? Je vous donne mes trois points. Mbappé, forcément c'est pas original, mais oui, c'est dingue quoi quand même. Alors c'est vrai qu'il y a cette stat qui est quand même hallucinante. Il est le plus jeune joueur de l'histoire du championnat de France à atteindre les 50 buts. Il en a même à 51 puisqu'il a claqué un doublé face à Nîmes aujourd'hui à 20 ans seulement. Pareil pour Messi. Alors ça on le savait déjà, lui, que c'est un phénomène, Léo Messi. Mais 50e triplé en carrière aujourd'hui.
Non.
Par contre, ça, le mec, il a mis 150 buts rien qu'en claquant des triplés, Léo Messi. Mmh. C'est quand même assez dingue.
50 buts en 50 matchs.
Mais c'est incroyable. C'est ouf. C'est incroyable. Et puis, troisième point, c'est la course au maintien. Parce que c'est vrai que tout est relancé ce soir avec cette victoire de Guingamp. Cette victoire d'Amiens également qui est très importante dans cette course au maintien. Mais ça rend sexy aussi le bas de tableau.
J'étais bien dans mes points, quoi, en fait.
Finalement, t'étais bien.
En deux points, j'ai dû faire quatre points.
Moi, j'ajoute un troisième point bis. Je donne beaucoup de courage à mon ami James Gallagher qui va ce soir à Dublin.
Faut rester dans les règles. Est-ce que tu lui donnes ton troisième point, Ali?
Pas du tout.
Alors, c'est mince. Bon, quand même, même s'il écoute pas, hein, mais James Gallagher combat à Dublin pour le Bellator. Je vous souhaite bon courage.
On s'en fout s'il écoute pas, alors.
Mais il joue le maintien?
Écoute, il s'est pris un beau KO à son dernier combat, donc là, c'est le moment de revenir. On va suivre ça avec attention.
Bon, écoute, le message est passé. Le PSG s'est donc imposé cet après-midi 3-0 face à Nîmes. Nkunku a marqué le premier en fin de première période et puis doublé de Kylian Mbappé qui a donc marqué ses 50e et 51e buts en Ligue 1 en carrière et cela en 88 matchs seulement. C'est vrai que tu disais tout à l'heure, toi, il est impressionnant déjà Kylian Mbappé. Alors on connaît son talent, mais déjà rien qu'au niveau des stats déjà,
c'est incroyable.
Ça te situe quand même le gamin.
Déjà que dans sa tête aussi jeune, il court après les records, il en a déjà pas mal. On l'a vu, hein, je veux dire, ce soir encore, on a vu qu'il voulait absolument essayer de terminer. Mais même si c'est de l'égoïsme, moi je veux que les attaquants soient égoïstes. Et Paris Saint-Germain a besoin d'attaquants égoïste pour finir les actions et non pas essayer même à 2-0 ou 3-0 à essayer de faire briller quelqu'un d'autre. Il faut qu'il finisse les actions.
Ouais.
Même si là, sur le coup, il aurait pu récompenser le petit Diaby qui fait un bon début de saison et la lui glisser. Mais bon, il est dans sa tête à essayer de marquer un maximum de buts qui va lui donner de l'assurance pour les prochains matchs.
Et en plus, ce que je dis dans mes trois points, c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'en fait, il fait pas un super match.
Mmh.
En fait, parce qu'au final, il galère beaucoup. Jusqu'à son premier but, il loupe quand même des occasions.
Il met ce but de la main.
Il met le but de la main. Enfin, tu vois,
il s'énerve.
Il est plusieurs fois, il est hors jeu.
Mmh.
Il part pas dans le bon timing. Mais au final, c'est là où on en est avec Kylian Mbappé. C'est un joueur qui, quand il fait un match moyen, met deux buts. C'est ça. C'est juste ça. C'est extraordinaire.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il se rend compte que ce poste d'avant-centre qu'a Cavani est le poste le plus dur à jouer à 11. C'est pas spécialement le gardien, défense au milieu, c'est ce poste de numéro 9. Et il se rend compte que dos au but, t'as beau essayer de trouver des espaces pour pouvoir garder le ballon, protéger et tout, c'est le poste le plus dur et il s'en échappe assez souvent.
Alors justement, puisque tu parles de ça, je vous propose d'écouter Marco Verratti, c'était à la fin du match.
Mm-hmm.
Il s'est exprimé au micro de Saber Desfarges. Écoutez bien ce que dit Verratti, il commente le record de Kylian Mbappé et ses stats absolument dingues. Écoutez ce qu'il dit aussi sur le positionnement de Mbappé, aujourd'hui notamment, puisque Cavani n'était pas là.
Non Kylian, c'est ça, c'est l'important, c'est qu'il se procure des occasions. Et ça c'est très important, ça veut dire qu'il est bien dans ses mouvements, on arrive à les chercher facilement. Je pense que si le coach, quand il a mis attaquant, il est encore plus décisif. Et ça nous fait du bien parce que si, comme vous avez dit, s'il rate en première occasion, il est toujours là pour marquer. Aussi aujourd'hui, il a fait des buts et c'est ça, la fin des résultats, ça compte ça. Et je suis vraiment aussi très content pour lui pour ces 50 buts. J'espère qu'il continuera comme ça parce qu'il peut battre encore plus de records.
Voilà. Il dit, il aime bien le voir jouer finalement au poste d'attaquant, d'avant-centre, quoi. C'est ce que dit Marco Verratti aussi.
Poste d'attaquant. Pourquoi? Parce que Marco Verratti aime bien quoi? Il s'appelle en profondeur.
Lancer des jolis ballons en profondeur.
Voilà, avec et quelqu'un qui va très vite.
Ouais. Après, Cavani aussi va très vite.
Neymar aussi.
Ils vont tous très vite. Après, franchement, sur ce match-là, donc oui, c'est facile de ressortir Mbappé, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les autres joueurs, notamment sur Paris. Je sais pas si t'avais prévu de le rubriquer et de passer.
Non, vas-y. Non, on parlait de Mbappé, on peut pas.
Alors, parce qu'Mbappé, voilà, on a plus de mots. Non, mais sur Mbappé, on a plus de mots, en fait. Voilà, il est extraordinaire, c'est génial ce qu'il fait, il est sur une saison qui est magnifique. Donc voilà, on manque de superlatifs. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce match du PSG. Pourquoi? Parce que Nîmes, contrairement à beaucoup d'équipes qui viennent au parc, a pas mis le bus. Pendant la première demi-heure, Nîmes a quand même beaucoup essayé.
Attends, ils ont pas mis le bus, ils ont pas joué comme d'habitude non plus offensivement.
Oui, mais ils sont pas non plus garés devant en restant à l'arrière.
Non, du tout. C'est face au PSG, c'est sûr. Mais tu vas jouer au parc. Pourquoi tu mets pas les joueurs offensifs? Il a attendu trop de temps pour faire rentrer Tube, Jonathan.
Oui, ça, je suis d'accord.
Pareil pour Ozok.
Bah, tu veux l'écouter, Bernard Blacard, ou pas? Allez. À la fin du match, on analyse justement de ce match. Il en dit quoi de ce résultat? Est-ce que finalement il a des regrets, l'entraîneur à Nîmes? Écoutez-le.
C'est trop compliqué. Non, ils sont trop forts pour nous, même si la première mi-temps a été assez équilibrée. Si même on aurait pu ouvrir la marque, Paris est trop fort. Ça aurait juste compliqué leur tâche, mais si on avait marqué en première mi-temps, Paris est trop fort pour nous.
Voilà, ils sont trop forts.
Mais écoute, moi j'ai quand même trouvé que par rapport à beaucoup d'équipes qui viennent au parc, ils ont quand même essayé. Après, ce qui m'a plu sur ce match, je trouve que Bernat a fait peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé au PSG. Dans ce poste un peu hybride de défenseur central, dans la défense à 3, j'ai trouvé vraiment très bon, très tranchant dans ses relances vers l'avant. J'ai trouvé Marquinhos et Thiago Silva impérial, très sûr, et notamment Marquinhos qui, à mon avis, depuis que tout Tourelle est arrivé, il est vraiment en train de passer un autre cap. C'était déjà un excellent joueur, il est vraiment extraordinaire. Et j'ai deux autres petits points. J'ai trouvé que la paire Verratti Paredes, alors leur complémentarité défensive, elle saute pas aux yeux, mais alors qu'est-ce qui régale techniquement? Paredes sur ses transversales, à chaque fois il trouvait Dani Alves. Ouais. Il a quand même un très beau gelon. Dans le jeu court, c'est un petit peu moins ça. Verratti, je l'ai trouvé bien en jambes. Et puis il y a Nkunku qu'il faut mettre en avant. Ouais. Nkunku, il est impliqué sur les trois buts quand même ce soir.
Qui a besoin de rythme aussi.
Nkunku, et je pense qu'il serait titulaire dans tous les autres clubs de ligue.
Hein. Oui,
c'est sûr. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue aujourd'hui dans la rédaction. Hein. Tu partages cet avis, que Nkunku serait très certainement titulaire dans la plupart des clubs de Ligue 1. Oui, tous les autres clubs de Ligue 1. Hein.
Mais je préfère qu'il reste au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que le PSG doit le garder. Par contre, quand tu me parles de Paredes, il a besoin de rythme.
Ah bah oui, il faut qu'il joue. Moment. Mais tu vois qu'il a quand même un très beau genou. Hein.
Il commence.
Les transversaires qu'il mettait à Dani Alves à chaque fois.
Ouais, mais ses déplacements, regarde bien Jonathan, il faut le pousser.
Ah, les déplacements, c'est pas encore ça, mais il manque de rythme.
Donc, oui, c'est ce que je dis. Mais quand tu manques de rythme, qu'est-ce que tu fais? Et que tu sais que tu joues pas souvent, il doit plus courir que Verratti, c'est ce qu'il fait pas. Mais le joueur qui m'a le plus plu tout à l'heure au parc, c'est pas un Parisien, hein. Ça a été Savani.
Ah oui, Savani, on sait.
Non, on sait pas.
Ah, la façon qu'il est extraordinaire.
Non. Là, il a fait un match ce soir.
Oui.
Je peux le dire, exceptionnel.
Mais Ali.
Dans tous les compartiments du terrain, pied droit, pied gauche, je cours, accélération, frappe.
Est-ce que c'est
corner.
Une surprise? Ouais, mais attends, c'est dur.
Si, c'est une surprise.
Parce que déjà, au match aller, il avait été très bon.
Oui.
Contre Lyon, et à chaque fois, il avait été très bon. Contre Marseille, il avait roulé sur le milieu de l'Olympique de Marseille.
Il avait été bien. Non, ce soir,
c'est un super joueur.
Ce soir, il nous a tout démontré.
Ah, mais c'est un super
même
joueur.
Même techniquement.
Ah, ben,
et si moi, je suis Marseille, voire Lyon, si un joueur que je prends au milieu terrain, c'est un joueur comme Savani.
Vous savez, Savani, ce qui est quand même incroyable, c'est que même quand Nîmes était en Ligue 2, je me demande en fait s'il a vraiment envie qu'il anime, parce que même quand Nîmes était en Ligue 2, c'était déjà un joueur qui était au-dessus des autres. Je le suivais avec beaucoup plus d'attention parce qu'il jouait, alors j'ai oublié son nom à chaque fois, le pauvre, avec un ancien minot qui jouait à Marseille, qui joue pour l'Algérie, qui joue en Belgique maintenant. Bon, j'ai oublié son nom. Mais il faisait la paire au milieu de terrain en Ligue 2. Et c'est un joueur qui, franchement, tu le voyais, à chaque fois sortait des prestations au-dessus des autres. Il est très coruscant, très propre techniquement. Et c'est un très beau joueur. Après, je sais pas pourquoi il est toujours à Nîmes. Ça, je me le demande toujours.
Alors, moi, je vais vous donner un élément.
Première saison. Hein.
Non, mais il y a un élément de réponse aussi. Alors, il l'a dit, vous savez que l'aspect familial est aussi très
important. Oui, ça, c'est vrai.
Il avait fait une interview très sympa, d'ailleurs, dans SoFoot, où il disait son fameux surnom, ses coéquipiers le surnomment Couille, vous savez, TG Savanier. Et il disait qu'il aimait bien être très proche de sa famille, TG Savanier.
Donc, Marseille, ça serait bien, alors.
Ouais, voilà, le sud de la France,
Nîmes, Marseille, ça va.
Voilà, c'était Larry Azouni, le minot qui jouait avec lui à l'époque. Il faisait la paire au milieu de terrain. Larry Azouni.
On le connaît pas trop.
Non.
On va accueillir Damien, les gars, supporter du PSG qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien.
Salut Nico, salut Ali et salut Jonathan.
Salut Damien.
Et bonjour à tous les auditeurs. Écoutez, ben moi, franchement, c'est un match énorme du PSG. Forcément, vous avez parlé de Kylian Mbappé. Je vais pas en rajouter. Moi, j'ai envie juste de dire que c'est un exemple pour moi, Kylian Mbappé. Je me rappelle de ce match contre l'Islande, match amical où il rentre en jeu, on perd. Et il montre, en fait, par son attitude, son caractère, que même quand il est remplaçant et qu'il rentre en jeu, et ben, il donne tout à chaque match. Et pour moi, il tire l'équipe vers le haut. Mais là, j'ai plus envie de parler d'un joueur. Pour moi, c'est Marco Verratti.
Ouais.
Marco Verratti, il a été blessé pendant 3 semaines. On a vu au PSG, ça, c'était compliqué, ça jouait moins fluide, il y avait moins d'envie, on a eu plus de mal à récupérer le ballon. Depuis qu'il est revenu, il monte en puissance, il fait un bien fou au jeu quand il est à ce niveau-là, c'est un régal de le voir jouer, et franchement, c'est un bonheur.
Il a été très bon aujourd'hui.
À ce niveau-là. Contre Manchester, il avait été énorme, et je pense que si le PSG aujourd'hui est à ce niveau-là, bien sûr, tout l'effectif est à un très gros niveau en ce moment, mais Marco Verratti y est pour beaucoup dans la suite du jeu.
Damien, t'as remarqué une chose? Quand Neymar ne joue pas, Verratti joue vraiment le football qu'il doit jouer et déjoue pas parce qu'il cherche souvent Neymar?
C'est
pas la faute à Neymar, attention.
Ouais. Je sais bien, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que quand même Marco Verratti, je trouve que c'est justement un des joueurs qui joue pas forcément systématiquement sur Neymar. C'est un des joueurs qui varie le plus son jeu. Mais c'est vrai que là, forcément, avec l'absence de Neymar, ça se voit davantage parce que il distribue et c'est lui vraiment qui est le dépositaire.
Tu veux dire quoi par là, Ali, toi ?
Qui déjoue. Ça me rappelle un moment quand Zlatan était sur le terrain, les joueurs il a tiré tous les ballons en disant pratiquement qu'il fallait lui donner le ballon. Ça a déjoué, parce que par des moments, le jeu te demande de jouer là. Et le fait qu'il y ait Zlatan, automatiquement lui donner le ballon.
Je crois ce que tu veux
dire. Et Neymar, Verratti, a l'habitude de rechercher Neymar.
Il force son jeu, tu veux dire, un peu.
Exactement ce que faisait Mbappé aussi avec Neymar.
Enfin, tu peux même pas me dire que c'est mieux pour le PSG que Neymar soit pas là, pour Verratti.
J'ai pas dit ça.
Ah, pas pour le PSG, mais pour Verratti.
C'est ce que je veux dire, je n'ai pas dit ça.
Ouais.
Mais là,
un peu à se forcer,
là, on l'a vu aujourd'hui. Ouais. Il a une palette, c'est-à-dire après, c'est le football qui lui dit de la mettre là ou là, pas à chercher et à s'obliger à jouer avec.
Moi, Damien, je ne sais pas ce que t'en as pensé, mais je pense qu'à terme, pour connaître particulièrement Paredes, je pense que les deux peuvent être très complémentaires dans la mesure où Paredes, on a un peu cette image qui est faussée de lui, mais deux formations.
On le connaît pas.
Commence à Boca Junior, c'est un numéro 6. Mm-hmm. Enfin, en Argentine, on appelle ça un numéro 5. C'est vraiment le joueur devant la défense, à la Redondo, à la Gago. Mais il a un profil qui est dans les duels, il y va fort. Quand il va, vous verrez, quand il sera en forme, il est très bon à la récupération. Et il est très dense, il est très dur, il met vraiment le pied quand il faut, et je pense que les deux peuvent être complémentaires. Et surtout, ce qui me réjouit et qu'on a un petit peu vu cet après-midi, Damien, c'est là que je sais pas ce que tu vas en penser, mais c'est, je pense que les deux, techniquement, jeu long, jeu court, c'est quand même un milieu de terrain qui a de la gueule.
Alors justement, dans un milieu où on joue à deux, on n'est plus à un milieu à trois. Effectivement, je pense que la complémentarité de ces deux joueurs, elle saute aux yeux et elle va se faire au fur et à mesure. Faut pas oublier que c'est un de leurs premiers matchs où ils jouent ensemble, 70 minutes. C'est vrai que, par exemple, la comparaison avec Rabiot, elle est facile et elle est très, très importante.
C'est pas la même vraiment parce que Paredes, il est plus naturellement, plus défensif.
Complètement. Dans ce milieu à deux, je trouve que la complémentarité est bien meilleure entre un Paredes et un Verratti qu'avec un Adrien.
Il aime jouer
Rabiot,
plus bas que Rabiot, tu vois. Après, alors il faut dire une chose, c'est que
Rabiot avait la capacité de jouer un petit peu partout au milieu de terrain.
Il a peut-être la capacité, mais il y a la volonté aussi. Vous savez, vous voulez pas jouer. Les gars. Je vous dis juste, je donne un élément après le débat, mais c'est que Paredes, quand il commence, j'insiste là-dessus, à Boca, il joue vraiment devant la défense. Après, il a eu ce syndrome un petit peu comme Ever Banega, qui jouait vraiment pure sentinelle devant la défense. Quand ils arrivent en Europe, comme ils sont pas habitués au rythme et à la densité par rapport à ce qu'on disait hier, je sais pas le les entraîneurs ont tendance à les faire jouer un peu plus haut sur le terrain parce qu'ils sont aptes techniquement. Mais Paredes, c'est en lui d'être vraiment une vraie sentinelle.
Donc c'est quoi alors le problème? C'est que c'est plus lent le rythme en Argentine?
Oui, c'est plus lent. C'est plus lent.
L'âme sud, Argentine-Brésil.
T'as l'impression de voir un match de Ligue des Champions en ralenti.
Parce que quand tu vois Banega, pour moi, c'est un 10.
Banegas, quand il commence, il prend la place de Sébastien Bataglia, qui était l'icône, qui est le joueur le plus titré de l'histoire de Boca Junior, et qui était la sentinelle devant la défense.
Alors que par contre,
Et c'est un numéro 6 de formation, il a même fait des matchs en défense.
Si tu me dis Paredes, je le vois moi ni 10, ni 6, je le vois 8.
Ouais, moi aussi. Ouais, mais c'est un vrai 6.
C'est sa façon de jouer.
C'est un numéro 5. C'est Redondo, Gago, tu vois.
Ouais, mais c'est pour ça que dans un milieu à deux, dans un milieu à deux, pour moi, c'est son poste, en fait. Et je trouve qu'avec Verratti, c'est très, très complémentaire.
Je suis d'accord,
comme le dit si bien Jonathan, dans le jeu long, c'est très précis.
Alves, à chaque fois qu'il voulait lancer et faire une transversale pour toucher Dani Alves côté droit, ça arrivait dans les pieds.
Non, techniquement, très bon.
Damien, merci d'avoir été avec nous.
Bonne soirée.
Dans quelques instants, on sera avec Olivier, supporter du PSG. On vous attend, supporter, supportrice du PSG au 32-16 également.
Beau, Nico.
Je sais pas si vous avez remarqué. Comment?
Non, j'ai été beau, Nico.
Merci. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous l'avez remarqué d'ailleurs. Il y avait que 5 remplaçants sur la feuille de match côté parisien. Voilà. Enfin, moi, il y en avait que 5. C'est-à-dire, Tourelle n'a inscrit que 5 joueurs.
Pourquoi?
Parce qu'il a pas voulu inscrire d'autres mecs. Moi, je vous avais,
on en parlait aussi. Du centre.
Justement. Alors voilà. On vous pose cette question. Non, mais c'est dingue quand même. C'est bizarre, non?
C'est quoi le message?
C'est un message.
Ah, au club, tu veux dire?
Un message.
Justement. On en reparle dans quelques instants. Juste
club,
avant.
Oui.
On va aller retrouver Nico Paul Orsi qui est du côté de La Rochelle. 17e journée de top 14 entre La Rochelle et le Stade Français, Nico. Et
la réaction d'orgueil des Rochelais, mais c'est trop tard. 76 minutes de jeu. Le score 27-14. La Rochelle a inscrit un essai, un bel essai d'ailleurs de Jérémy Saint-Zel. Jeu large. On a balayé le terrain de la droite vers la gauche plusieurs fois pour venir étirer cette défense du Stade Français, et c'est Saint-Zel, le trois quarts centre, qui a pris un intervalle, belle chandelle la montée par les stadistes qui vont aller jouer dans la moitié de terrain de La Rochelle, le Stade Français Paris qui doit gérer tranquillement cette fin de match pour repartir avec un succès précieux dans l'optique d'une qualification et d'une place dans le top 6. Moins de 4 minutes à jouer, 27-14 pour le Stade Français sur la pelouse de La Rochelle.
Merci Nico. On vous rappelle donc les résultats de ce samedi, 26e journée de Ligue 1. Amiens qui a battu Nice 1-0, Guingamp qui bat Angers 1-0, et le PSG qui a cartonné 3-0 face à Nîmes. Et on y revient dans quelques instants sur ce match avec Jonathan Macardy, Ali Benarbia.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie d'Ali Benarbia et de Jonathan Macardy, 26e journée de Ligue 1 ce samedi, la suite du mois. La victoire de Guingamp 1-0 face à Angers, la victoire d'Amiens 1-0 face à Nice. Et Guingamp qui se relance dans la course au maintien. Ils sont toujours derniers, les Guingampais, mais ils reviennent à 2 points de la place de barragiste. Et puis Amiens qui prend 4 points d'avance sur Dijon, qui est justement dans cette position de barragiste. Et puis il y a eu cet après-midi la victoire du PSG 3-0 face à Nîmes, avec Kylian Mbappé qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat de France à atteindre et même à dépasser, puisqu'il a claqué un doublé, les 50 buts. Il a dépassé d'ailleurs, il a battu le record de Rachid Mekloufi en 1957, qui était jusque-là le plus jeune joueur à avoir atteint les 50 buts.
La star de Saint-Etienne.
Un grand joueur.
On parle tous, mais...
Bon joueur,
À entendre Jean-Michel Larquet, la star de Saint-Etienne, c'était Mekloufi.
C'est le joueur qui l'a plus impressionné dans sa carrière.
Encore en Algérie. Et après, tu disais?
Alors, on en était sur cette histoire. Alors, c'est vrai qu'on expliquait que Thomas Tuchel n'avait inscrit que 5 joueurs, 5 remplaçants plutôt sur sa feuille de match. Il y avait Buffon, Dagba, Nsoki, Draxler et Diaby. Comment vous expliquez ça, vous, justement? C'est bizarre qu'il ne fasse pas confiance aux jeunes, non?
Il a dit, avant le mercato d'hiver, il disait « Je veux un autre Marquinhos et un autre Verratti ». Et on sait que les relations avec Antero Henrique sont tendues, au point que Antero, on va lui dire au revoir. Ce qui, à mon sens, est tout à fait normal vu comment il a savonné la planche de Tourelle pendant les deux mercato. Et moi, je pense simplement qu'il envoie un message à sa direction en disant, vous voyez?
Pourquoi il a savonné la planche?
Antero? Ah, parce que il y avait des joueurs que Tourelle voulait. Antero les a pas forcément négociés jusqu'au bout. Et puis, en fin de mercato, il a ressorti les joueurs que lui voulait faire venir en s'associant avec son ami.
Il y a des joueurs que lui voulait et que Tourelle n'a pas voulu non plus.
Tu vois, en s'associant avec son ami.
Non, mais l'attention, elle va dans les deux sens, si tu veux.
Tu vois, je pense que l'épisode du petit Argentin qui joue en MLS, faudra se pencher dessus sur ce qui s'est passé. Faudra regarder les gens qui étaient inclus dans le deal, à savoir, Simonian, une autre personne. Je rappelle qu'Antero Henrique a une société offshore avec Simonian. Enfin, c'est les rumeurs qui courent. Moi, j'en sais rien. C'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai que Simonian et Henrique ont beaucoup travaillé ensemble à Porto.
Oui.
Et voilà.
Ils ont beaucoup travaillé avec Pinizavi, qui a fait le transfert de Neymar à Mbappé, par exemple.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'accuse Antero Henrique de rien. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'Antero Henrique avait ses réseaux. Simonian en fait partie, et que ça correspondait peut-être pas à ce que Tourelle voulait. Le fait est que Tourelle a un effectif qu'il juge court pour jouer sur la Ligue des Champions, avec un effectif compétitif et le championnat, en procurant des prestations de haut niveau. Et il a fait montrer en mettant ça.
Juste avant d'avoir ta réponse, c'est fini au rugby, Nico Paul-Orsi, entre La Rochelle et le Stade Français.
Avec une énorme surprise, la première défaite de la saison à domicile pour le Stade Rochelais, balayé par le Stade Français Paris 27-14. Pas de bonus offensif pour les Parisiens, puisque les Rochelais ont inscrit un essai dans les dernières minutes, à la 73e minute. Mais en termes au niveau du classement, La Rochelle reste 3e, perd du terrain sur Toulouse et Clermont, et surtout Paris, reste à sa 6e place, mais conforte un petit peu son petit matelas d'avance sur les 7e et 8e, le Racing et Castres qui jouent demain. Magnifique opération du Stade Français Paris face face à un Stade Rochelais méconnaissable ce soir, défaillant dans tous les secteurs du jeu. Le Stade français a croqué La Rochelle.
Merci beaucoup Nico, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Tiens, ta réponse Ali, toi justement. Tiens, et sachez que ça vient de se terminer entre la Roma et Frosinone, et victoire dans le temps additionnel de la Roma, 3-2. Voilà.
Ça va être chaud.
C'est dingue également. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce choix de Tourelle de mettre que 5 remplaçants là aujourd'hui face à Nîmes?
Alors soit
il y a pas eu de conséquences, hein, il y a une 3-0, il y a pas eu de blessé, il y a pas eu de.
Soit peut-être parce que au dernier moment, il a dû mettre quelqu'un en tribune au repos, je pense. On a vu du monde, hein, que ça soit ou Di Maria ou Draxler ou je sais pas qui. Soit pas récompenser peut-être quelques jeunes au centre de formation parce que ça se passe pas trop bien, qu'il y en a qui veulent signer ou pas re-signer. Moi je vois que ça. Par contre, pouvoir revenir à Théo Henrique, en fait, je suis pas sûr que les dirigeants soient aussi mécontents que ça de lui.
Ah bah non, il a quand même réussi, il a quand même fait venir Neymar.
Non, c'est même pas pour ça, Jonathan. Tu sais pourquoi? La direction, Nasser lui-même qui est beaucoup pris, voulait vraiment qu'il y ait une personne qui s'occupe de A à Z de tous les problèmes des joueurs, du coach. Et je pense qu'il est en train de bien faire son travail.
Ali, moi, je fais pas le procès d'Antero Henrique. Ce que je pense juste, et on sait que c'est avéré, c'est que ça passe pas avec Tourelle.
Non,
ça
alors,
passe pas bien.
Tu sais ça quoi passe pas avec
ils ont failli revenir Romain.
Non,
apparemment ils ont failli revenir Romain le dernier jour du mercato.
Le fair play financier et Antero Henrique suit à la lettre.
Mais méfions-lui apparemment aussi.
Suit à la demande ce que lui demandent les dirigeants qataris, et que Tourelle lui vient d'arriver ici, il s'est dit ils ont gaspillé des milliers des cents avec moi, ils gaspillent pas autant des milliers des cents, mais ce qui se rend pas compte peut-être Tourelle, c'est que il y a eu un achat de les deux futures stars du monde entier. Donc il y a
pour
plus
ça,
d'argent.
Pour ça, Antero Henrique, faut le féliciter.
Non mais après, non, mais on y a plus d'argent là.
Il y a quand même un élément. Enfin, certes, l'entente, elle est pas géniale entre Tourelle et Antero Henrique. Mais c'est vrai qu'au PSG, le problème est plus complexe. Hein. Il y a aussi le problème de la formation, du centre de formation, etc. Parce que le Antero Henrique, il est pas là juste pour gérer l'équipe
professionnelle.
D'accord. Et là, les plus grosses tensions, c'est surtout avec la formation du côté du PSG. Là, c'est en axe. En revanche, pour revenir au cas Tourelle, ce qui est curieux, c'est d'aller chercher Antero Henrique, de lui donner finalement des responsabilités quand ils vont le chercher, et au final l'entraîneur qui arrive, bah c'est pas son choix numéro un, Thomas Tuchel. C'est ça qui est bizarre, de prendre un directeur sportif, finalement Antero Henrique au PSG, il a jamais ramené un entraîneur à lui quoi. C'est ça qui est un peu bizarre.
Ça c'est vraiment vrai. Je suis d'accord avec toi, Nico.
Alors c'est du coup les deux doivent cohabiter, oui forcément.
Exactement. Forcément. Après franchement quand on tirera le bilan d'Antero Henrique au PSG, je pense qu'il sera largement positif. Ça, on peut le dire. Mais je pense que c'est quand même essentiel qu'il y ait une bonne entente entre un directeur sportif et son entraîneur, avec les frictions qui sont inhérentes à la nature essentielle de ces deux postes. Voilà, il y en a qui tient les cordons de la bourse, si j'ose dire, et l'autre qui veut des choses et qui sont peut-être parfois pas réalisables. Mais je pense vraiment que là, Tourelle s'est senti peut-être un petit peu lésé sur le dernier mercato, sur le dernier jour, avec ce qui s'est passé. Ils ont pas répondu à toutes ses demandes. Et puis il le montre, il montre son mécontentement.
Il a eu quand même Paredes, mais Mais il a eu un joueur. Mais par contre, ce qu'on demandait à Antero Henrique, surtout, le problème du Paris Saint-Germain, c'est que la plupart des joueurs, les bons joueurs qui ont des gros contrats, il n'y en a aucun qui est parti, ils restent au Paris Saint-Germain. Le plus dur au PSG, c'est de vendre et de faire partir des joueurs. Et depuis qu'Antero Henrique est là, t'as récupéré quand même de l'argent. Et t'as des joueurs que tu t'es débarrassé à la fois de leur salaire et un transfert, ça c'est important.
On va accueillir Olivier, qui est supporter du Paris Saint-Germain.
Pas toujours adroitement, à l'image de ce qui s'est passé avec Giovanni Lo Celso, qui s'il était au Paris Saint-Germain, on devrait donner service à l'équipe aujourd'hui.
Si, mais Tourelle il en voulait pas, moi je le dis.
C'est dommage.
Oui bah voilà, donc tu vois.
On dit c'est dommage. Après. Mais Lo Celso, ce n'est pas un 6 ni un 8.
Ah bah, c'est il joue 6 en Argentine.
Non mais au Bétis. Il est bon au Bétis, il brille au Bétis. Pourquoi? Parce qu'il joue comme un numéro 10.
Ouais, mais il peut jouer devant la défense
et
aussi.
Et au Paris Saint-Germain, on n'a pas besoin de ce poste-là.
Ouais, c'est vrai. Olivier est avec nous. Salut Olivier.
Ouais, bonsoir messieurs.
Salut Olivier.
Comment allez-vous?
Bah ça va. Salut. Et toi?
Ouais, super, ça va. Alors moi, je voudrais un petit peu parler. Il y a plein de choses. Vous dites plein de choses très très intéressantes. Je voudrais un peu revenir par rapport à ces dernières semaines du PSG.
Allez.
Bon, vous parlez des problèmes intrasportifs entre Enrique et puis Tourelle. Bon, peu importe. Effectivement, il y a l'air d'avoir des gros problèmes, mais malgré tout, quand on voit l'équipe, heureusement qu'il y a des problèmes internes, hein, parce que s'il n'y avait pas de problème, je ne sais pas ce qui se passerait sur le terrain. Non, c'est vrai, parce que ça fait vendre du papier, ça fait beaucoup parler, mais effectivement, il y a des tiraillements, comme à mon avis, dans tous les gros clubs. Mm-hmm. Mais malgré tout, sur le terrain, c'est pas ni Enrique ni Tourelle qui jouent, c'est
Olivier,
les joueurs.
Et honnêtement, Olivier, cette conclusion, tu la tireras quand tu feras le bilan du parcours européen.
Ouais, alors justement, c'est là-dessus que je voulais revenir. Je voulais vous dire, depuis moi, je suis supporter de Paris depuis plus de 35 ans. Depuis maintenant 4-5 ans. Alors moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça, hein, sur on n'a pas de chance, on prenait des cartons, on perdait des grands joueurs, bon, peu importe, on n'a pas de chance au tirage, on tombe toujours sur les grosses équipes. Maintenant, pour aller au bout d'une compétition, faut forcément battre un gros à un moment ou un autre, voilà. Et cette année, ok, on a rencontré Manchester, alors Manchester qui était pas bien, entre le tirage au sort là, l'équipe tombe beaucoup mieux. Je pense que Manchester s'est trompé de match pendant 10 matchs, ils ont été à fond, et puis contre Paris, ben je pense que les joueurs étaient un peu cramés, ils se sont un peu vus trop beaux. Et nous, entre temps, on a perdu
Neymar. Peut-être que vous êtes tout simplement au-dessus, très au-dessus.
Ils n'ont pas eu un calendrier de dingue avant de jouer le PSG non plus. Hein.
Ouais, voilà.
Je pense que vous êtes juste très au-dessus de Manchester.
Et c'est pas terminé.
On dit toujours depuis pas mal de temps, Paris n'a pas du tout de match de préparation en Ligue 1 pour la Ligue des Champions, c'est pas assez fort. Bon, peu importe. Moi, quand j'ai vu le match contre Manchester, j'ai eu juste l'impression de voir le PSG qui jouait en Ligue 1, c'est-à-dire qui jouait à sa main en première mi-temps, tranquillement.
Attends, juste, Olivier, je vais te couper, mais je te dis juste une différence par rapport à la saison dernière, qu'il faut pas oublier, c'est que Paris s'est quand même testé avant, contre Liverpool et contre le Napoli.
Ouais, je suis d'accord.
Alors,
c'est là où je veux venir. Je veux juste vous dire quelque chose. Je pense que ce qui est en train de s'inverser par rapport aux autres années, chance ou pas chance, c'est que l'année dernière, les autres années, on perdait toujours des joueurs sur des blessures et tout, même si Verratti, il est quand même sur le coup d'un carton jaune, puisque c'est remis à zéro, je crois, qu'à partir des quarts de finale ou demi, je sais plus. C'est qu'en fait, on va récupérer normalement nos joueurs clés, Cavani, Neymar.
Pas encore.
Olivier.
Olivier. Et on a perdu Olivier. En plus de Neymar et Cavani, on a perdu Olivier.
Je pense qu'ils disaient qu'ils allaient récupérer l'ensemble de leur cadre.
Et mais c'est pas encore sûr. Hein.
Très mal.
Neymar, on va pas le récupérer de suite. Et à 100%.
Mais Cavani, c'est combien de temps?
Cavani, avec sa blessure qu'il a, on va l'avoir encore
pour un mois.
Espérons déjà pour qu'il soit. Parce que revenir pour l'écart, mais pas revenir à 100%, c'est autre chose.
Les gars, dans quelques instants, on rappelle donc victoire 3-0 du PSG face à Nîmes, avec notamment ce doublé de Kylian Mbappé. Victoire 1-0 d'Amiens ce soir face à Nice. Victoire 1-0 de Guingamp face à Angers. On en parle dans quelques instants de cette victoire très importante des Guingampais, qu'on disait complètement enterré, condamné à la descente d'ores et déjà. Et bien, ils reviennent à 2 points seulement de la place de barragiste qui est occupée ce soir par Dijon. À tout de suite avec Ali et Jonathan.
Nicolas Villas.
Accompagné de Jonathan Macardy et d'Ali Benarabia, on vous rappelle les résultats de ce samedi 26e journée de Ligue 1. Le PSG, on vient d'en parler, de l'analyser, a battu Nîmes 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé, qui est devenu ce soir le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 à atteindre et même dépasser, puisqu'il a mis ce doublé, donc les 50 buts dans l'élite du foot français. Guingamp qui a battu Angers 1-0, on y revient dans quelques instants. Et puis Amiens qui bat Nice 1-0 grâce à un but de Guirassy. Amiens qui est 16e avec 4 points d'avance sur la place de barragiste. T'en disais du bien tout à l'heure, Damien, Jonathan.
Avec le micro, c'est mieux. Ah bah déjà, j'en disais du bien parce que je salue, une fois n'est pas coutume, Jean-Marc de la Maison du Whisky qui était au stade ce soir, fidèle au poste, comme ouais, à chaque match au domicile d'Amiens.
Comme avec modération.
Salut Jean-Marc. Et non, écoute, moi ce que je trouve bien avec Amiens, c'est que bon, ils ont été dans le dur cette saison. C'est pas une saison qui est aussi, on va dire, tranquille que la saison dernière. Mais je trouve que Pélissier, qui à mon sens est un excellent entraîneur, est récompensé de son audace. Il a vu qu'il avait des bons attaquants. Et il les met tous, il joue avec Guirassy, Konaté, Godos, Otero. C'est une équipe qui du coup propose toujours quelque chose depuis quelques temps. Je trouve qu'offensivement, il y a de l'allant qui respire de cette équipe, il y a des beaux mouvements offensifs. Alors c'est pas toujours précis, c'est pas toujours juste parce que les joueurs sont pas non plus tous des foudres de guerre, mais je trouve que voilà, l'audace de Pélissier est à souligner. Alors, et je suis content pour lui qu'il soit relancé.
Moi, je pense qu'il a joué comme ça par obligation. Il aime bien jouer avec un meneur de jeu. On l'avait vu avec Kakuta la saison dernière. Cette année, ça a pas marché avec Ganso. Et là, il s'est dit, je vais mettre mes attaquants. Mais il pouvait pas le faire avant parce que t'avais toujours soit Konaté qui était blessé, soit Godos qui était parti avec l'équipe nationale d'Iran et puis qui est revenu. Mais il a jamais eu vraiment ces quatre joueurs.
Qui est arrivé.
Exactement.
Il y a eu l'arrivée de Guirassy.
Et là, Guirassy plus Konaté, c'est
qui a claqué son premier but avec Amiens.
C'est quand même assez costaud offensivement. Et ça peut déménager, mais c'est toujours pareil. Et dès que cette équipe ressent que la défense y a le coup, Jonathan, automatiquement, ils se lâchent et ils sont beaucoup plus sereins techniquement dans le jeu.
Mais il y a autre chose aussi, hein, je pense qu'il faut souligner, c'est le milieu. Alors, ça n'a pas toujours été ce milieu-là, mais je trouve que Blin m'en conduit, c'est pas mal. Ça commence à
mon conduit,
c'est que ça a toujours été un
on parlait de Savanier, mais mon conduit est très sérieux,
en cran dessous quand même.
Différemment, ouais. Mais mon conduit fait depuis qu'il a la Ligue 1, il est très très fort.
On rappelle qu'Amiens est resté sur une défaite à Marseille 2-0 et puis à domicile, est resté sur une victoire importante 1-0 face à Caen. Tiens, on va accueillir Sébastien, supporter d'Amiens qui nous a appelé au 32-16. Salut Sébastien.
Salut
Sébastien. Très, très Sébastien qui était à la Licorne, je crois, ce soir en plus. T'étais à la Licorne, Seb, c'est ça?
Pardon ?
T'étais à la Licorne, je crois, ce soir.
Oui, tout à fait. Ouais, il y a une très belle ambiance. On était à côté du COP. Mon fils était dans le COP. Et vraiment, tout le monde heureux, les joueurs. C'est une vraie récompense. C'était quand même une saison compliquée. On a commencé avec Prince Guano, qui était plus du tout...
C'était sur le départ. Hein. Ah, oui.
Ça posait problème. Ensuite, on a eu 4 blessés. Là, on en a récupéré 2, donc ça va un petit peu mieux. Puis, vous avez parlé de mon conduit. C'est vraiment bien, parce que c'est un joueur qui vient de National. Et aujourd'hui, il fait un vraiment gros, gros boulot dans l'équipe.
C'est un très bon joueur.
Ça remplace pas Kakuta, mais c'est plutôt prometteur.
Ouais. Il a eu des grosses galères, hein, mon conduit. Hein. Il a une blessure qui l'a complètement freiné au début de sa carrière. Et c'est vrai qu'il s'est relancé à Amiens en National. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a une belle ambiance aussi aujourd'hui.
Ouais, mine de rien. Parce que
le stade était plein.
Mais ça, je t'ai dit, c'est la présence de Jean-Marc.
Non, mais l'équipe joue le maintien. Ça n'a pas été évident. Il y a de mauvais résultats. Malgré ça, le public est là et aide cette équipe d'Amiens. Et s'il y a un joueur qui peut leur apporter cette touche technique qui lui manque par rapport à Kakuta, c'est Godos.
Ouais.
Parce qu'il a une bonne frappe, bon dribble, il garde bien le ballon, il change de rythme. Il apporte beaucoup à ses coéquipiers. Et s'il a un réussite, il peut faire beaucoup de bien à Amiens.
Mais tu sais qu'Amiens, Vas-y, Sébastien.
Ouais, j'ai l'impression que depuis qu'il est revenu en plus de Coupe d'Asie, il a monté encore en niveau.
Il a réglé les problèmes avec l'équipe nationale, sûrement. C'est peut-être pour ça.
Ouais, c'est possible. Ouais, parce qu'il... Bon, une belle équipe. Après ça, ce qui est problématique quand même, c'est qu'on a assez peu d'attaques. C'est-à-dire que si on a un blessé, là, ça devient vite dramatique. Le match contre Monaco illustrait bien ça. On a dominé le match d'un bout à l'autre et on n'a pas marqué de but. Et finalement, on a perdu sur un penalty.
Après,
sur un action peu.
Sébastien, moi je trouve que Guirassy et Konaté, c'est pas mal les deux ensemble. Il y a une complémentarité qui est pas dégueulasse et je trouve que ils s'entendent bien, ça combine et la ligne de 4 avec ces deux vrais avançants, moi je trouve ça très intéressant.
Mmh. Ah oui, tout à fait d'accord. La seule chose, c'est qu'il faut plus qu'on ait de blessés. Bon, là, on a va revenir, on a Cornet qui va revenir, donc ça va faire du bien aussi. On va avoir un peu plus de marge de sécurité.
Tiens, on va accueillir Jean Baumel, Sébastien, qui nous a fait vivre ce match ce soir depuis le stade de la Licorne. Salut Gibo.
Salut Nico, salut Ali, salut Jonathan, salut à tous.
Alors déjà Gibo, tu confirmes ce que Sébastien vient de dire, bonne ambiance à la Licorne cette saison encore.
Oui, et même, c'est monté d'un cran, notamment avec le match de Caen, dernière victoire avant ce soir pour Amiens. Il y a l'union sacrée, hein, ça commence à bien monter, il y a des choses intéressantes, tu vois, le match de Caen, en milieu de semaine, ils avaient invité les supporters à assister à l'entraînement, bon, truc classique, mais un peu plus que d'habitude, mais surtout c'est que les joueurs à l'issue de l'entraînement ont bu un café, ont discuté avec les supporters, ce qui est assez sympa, et on a vu le résultat lors du match de Caen, une grosse ambiance et une victoire, et ils ont fait quasiment la même chose cette semaine avec en plus des supporters, les écoles de foot partenaires du club, donc vraiment ils veulent vraiment qu'il y ait une mobilisation pour que le club, voilà, le petit plus du public, et franchement ça se ressent un peu sur le terrain, on les voit, voilà, ils s'arrachent très très bien sur 90 minutes, mais globalement en tout cas tu sens qu'il y a moyen de se maintenir, quoi. Voilà, il y a un élément important parce que c'est vrai que l'année 2019 a été très compliquée. 6 matchs, une victoire, mais t'as quand même joué Paris, Lille, Lyon, Marseille, exactement, Rennes. Et ils ont jamais été laminés. Ils ont fait des erreurs sur des grosses équipes, mais le fond de jeu, il y a quelque chose. C'était pas n'importe quoi. Et face à des équipes un peu moins fortes que celle-là, eh ben ça passe. On l'a vu contre Caen, on le voit ce soir contre Nice. Donc c'est encourageant pour la suite, franchement.
C'est vrai que le fait d'avoir joué les plus gros, c'est quand même rassurant. Il nous reste encore 5 matchs à gagner pour se maintenir, mais c'est quand même plutôt positif. Ouais.
Puis même Christophe Galtier, il lâche pas, il fait tourner son effectif. Il y a des joueurs qui sont un peu moins bien comme Niaoré.
Pellissier.
J'ai dit qui?
Galtier.
Ah oui,
moi c'est ça.
Non, il fait tourner son effectif.
Je le crois souvent aussi, donc.
C'est dans ton dos, ton champ d'action.
Lapsus, Gibo.
Voilà, exact.
Bah maintenant, c'est que t'es pour Lille, c'est.
Non.
Ah, il joue la Champions League, Amiel.
Oui, non, mais franchement, s'il se maintient, c'est beau, parce que c'est un des plus.
Gibo, moi, je trouve que Pellissier, quand même, cette saison, qui est peut-être un peu plus, qui est plus dure que la saison dernière, bah, il trouve quand même des solutions, et il montre que c'est un bon entraîneur.
Ah oui.
Non mais c'est un miracle.
Jimo, non mais Jimo, même en plus, je vais vous dire un truc.
C'est miraculeux qu'il soit resté cette saison. Il est annoncé à Toulouse, c'est Lyon, pas
le fait. Le club a fait un peu barrage pour qu'il parte là-bas. Ouais, hein, ouais. Ça c'est clair. Après au niveau recrutement, il n'a pas eu ce qu'il voulait. On lui a imposé pas mal de choses et au début il y a eu beaucoup de joueurs étrangers, donc il y a eu ça a été très compliqué. On lui a imposé aussi Ganso. Ouais. C'était un pari, mais ça c'est un pari. C'est bien quand t'es un peu un club structuré qui peut se permettre cette fantaisie là. Bon là en fait t'as perdu du temps avec Ganso, t'as tenté de le faire jouer. Est-ce que ça vaut le coup pour un club comme Amiens? Bon, c'est vrai qu'il y a eu Kakuta, ça avait bien marché la saison dernière, mais c'est pas pareil. Ganso, c'était un sacré pari. Je pense qu'ils ont perdu un peu de temps. Ils s'est peut-être un petit peu forcé à le mettre par moment sur certains matchs.
Et oui, tout à fait.
Je pense que pour un club comme Amiens qui vise le maintien, c'est peut-être pas le bon plan.
Ouais, et parlons un peu de Nice aussi, Gibo. Il était comment Patrick Vieira en conférence de presse là?
Oh bah écoute, je pensais qu'elle était un peu plus déçue et énervée par rapport à la prestation de son équipe, surtout en première mi-temps. Alors il l'a reconnu hein, qu'en première mi-temps c'était vraiment catastrophique. On a rien vu de de Nice. Bon, Amiens les a pris à la gorge d'entrée. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais t'enlèves Saint-Maximin, c'est terrible. C'est terrible.
C'est le néant offensivement. Cette équipe de Nice.
Mais c'est là que tu dis.
En fait, ce qui est dramatique sur le match de Nice ce soir, c'est que Nice habituellement arrive à tenir le ballon, propose des voilà, joue un peu à la baballe, ont la possession du ballon, mais sont inoffensifs dans la surface de réparation adverse. Là, bah ils étaient inoffensifs mais ils arrivaient pas à tenir la balle. Donc, la prestation est dramatique et confirme que ce Nice-là reste une équipe qui a de très grosses lacunes structurelles dans la composition de son effectif, parce qu'il y a personne pour jouer en pointe. Hein. Alain Saint-Maximin, très bien, mais c'est pas un numéro 9, je suis désolé. Et tu les vois, t'as l'impression qu'il pourrait jouer une heure sans marquer.
On va l'écouter justement, Patrick Vieira, puisque t'étais en conférence de presse tout à l'heure, Gibour. Merci Sébastien, supporter d'Amiens, qui était avec nous. Vous allez voir que Vieira, il est positif malgré cette défaite. C'est la troisième défaite sur les quatre derniers matchs pour les Aiglons. Écoutez-le.
Non, on peut retenir la deuxième période. Je pense qu'on est mieux rentré en deuxième mi-temps et notre seconde période a été beaucoup mieux. Je pense que en première période, on a manqué, surtout dans le premier 20 minutes, on a vraiment manqué d'agressivité, on était sous pression. Et là, on a vu aussi ce manque d'expérience dans les 20 premières minutes où on a été en difficulté et on n'a pas su réagir.
C'est presque bizarre hein, ce que dit Vieira. Alors je parle pas de la positivité qu'il essaye d'avoir, mais quand
il parle fataliste.
Non mais il parle de manque d'expérience. Il y a bien une équipe qui a pas d'expérience, c'est Amiens dans ce match de soir.
Ah oui, c'est clair. Mais ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que quand tu regardes le classement, même s'il y avait eu 4-0 à Lille et 3-0 contre Angers, les deux déplacements avant Amiens, si tu gagnais ce soir, tu pouvais te mettre dans la lutte pour l'Europe. Alors c'est vrai que c'est pas fini, mais quand tu vois les dernières prestations à l'extérieur, tu dis bon, ils vont pas y aller. Et voilà, c'est peut-être le match qui va faire la bascule où la fin de saison sera peut-être un petit peu moyenne. Ils vont finir les matchs, mais voilà, sans plus quoi. On sent qu'il y a pas ce petit plus ce petit élément qui fait que Nice va batailler pour l'Europe, ce qui est un petit peu dommage parce que au final ils étaient pas si loin que ça quoi. Enfin c'est mon avis après.
Je pense que Vieira au niveau des résumés d'après match, ni il va dire que son équipe est exceptionnelle parce qu'elle a gagné un gros match, ni il va les accabler ou leur rentrer dedans ou les critiquer à la presse parce qu'ils ont pas été bons ou ils ont pas fait ce qu'il fallait ou ils sont passés au travers en première mi-temps. La preuve en est. Je pense qu'il réglera ses problèmes directement dans les vestiaires, en direct avec les joueurs, beaucoup plus avec la presse. C'est pour ça qu'en général, on voit que c'est assez morne quand il discute, il dit les choses les plus simples possibles. Mais je pense qu'en interne, dans les vestiaires, quand ça va mal, il doit leur faire ressentir, essayer de travailler dessus. Et quand ça va bien, il doit leur dire aussi. Mais il y a eu un gros changement dans ce club-là, il faut pas l'oublier. Il y a plus Fournier, il y a plus River.
Bah c'est vrai que là il y a
un gros chamboulement et Vieira commence juste à peine à connaître Monsieur Gagné.
Il y a quelque chose qui est important de dire sur Nice, c'est que au milieu de terrain, tu regardes, il y a Tamez, Lesmelou et Cyprien. Trois alors je parle surtout de Lesmelou et de Cyprien, c'est quand même des beaux joueurs de foot, a priori.
Tamez aussi.
Oui, Tamez aussi, mais un petit peu moins que.
Et puis
mais
Patrick Vieira adore
Tamez. C'est inquiétant que ces joueurs-là. Moi, je trouve, enfin, pas inquiétant, mais je trouve que ces joueurs-là sont pas à leur niveau depuis quelques temps. Il manque de tranchants. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est l'organisation? Bon, on sait que Cyprien a eu cette blessure terrible et qu'il est jamais vraiment revenu au niveau qui était le sien avant de se blesser. Mais, je trouve que ce milieu de terrain-là est beau sur le papier, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus faire une prestation, équivalente à leur potentiel qu'ils ont déjà démontré par le passé.
Mais est-ce que c'est que ces trois joueurs, Jonathan?
Non, il n'y a pas que ces trois-là. Mais, surtout Cyprien qui nous avait quand même montré des choses. Voilà.
À part non, mais ces trois-là, il a raison, Jonathan. On attend leur niveau là. Franchement, ce qu'on a vu ce soir.
Non mais même devant, Gibo, tu l'as dit.
Oui. Bah devant, t'as un Maxima qui met un peu le feu. Mais
tu perds Balotelli, tu le remplaces pas.
Non mais les gars, Gibo, s'il était pas au top. Nico, des joueurs qui jouent devant ce soir, Pelican, Makengo, Saint-Maximin qui joue pas à son poste, on en attend pas grand-chose en fait. Tu vois,
je suis désolé, moi Saint-Maximin, j'attends.
Bah oui, mais pas au poste de numéro 9. Moi, j'attends quelque chose. On est d'accord. Faut pas t'énerver, mon chéri.
Pas une armée, d'accord.
Ce que je veux dire juste, c'est que il y a ces trois joueurs-là que j'ai cités, Lesmelou, Tamez et Cyprien, qui sont, on en attend forcément plus.
C'est récent.
Ils montent pas. Voilà.
Cette équipe de Nice a besoin d'étincelles pour monter de rythme quand Dante prend les choses en main derrière, quand Attal et sur le terrain et lui apporte énormément sur son côté et qu'à Maximin lui aussi
je vais vous dire ce qui manque à cette équipe là, c'est que c'est une équipe qui est capable de très bien conserver le ballon, d'avoir des longues séquences de possession, de redoubler de passes, qui est capable de voilà, mais c'est un joueur qui serait capable de changer le rythme, tu vois. Parfois l'équipe elle ronronne, c'est bien de jouer à la baballe, mais parfois faut accélérer le jeu et c'est un rôle que Cyprien devrait pouvoir endosser. Et malheureusement, je l'ai vu que très rarement endosser ce rôle-là.
Les stats, ça vaut ce que ça vaut, mais juste pour rebondir sur ce qu'on disait. Donc on disait Nice, c'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Sur les 4 derniers matchs, Nice, c'est un but marqué, les mecs.
Eh oui.
Et t'as joué Angers. T'en prends 3 Angers, tu fais 3-0 face à Angers. Bon, tu joues Lille qui est pas mal, ok. Tu joues face à Lyon qui est bien aussi. Mais enfin, tu joues Amiens et Angers et t'y arrives pas, quoi.
Nico, c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière. C'est que parfois, tu vois Nice jouer et tu te dis qu'il pourrait jouer 10 heures sans marquer. Il pourrait jouer très bien, mais dans la zone de vérité, c'est là où ça marche pas.
Le poste
et c'est pas forcément de leur faute. Parce
le poste le plus dur, personne. Jonathan, c'est les 30 derniers mètres. Et Nice savait très bien qu'à l'image de Marseille, qu'il leur fallait vraiment un finisseur. Marseille a la chance d'avoir des Thauvin ou d'autres joueurs qui peuvent finir. Mais Nice savait très bien qu'il allait avoir un problème Balotelli et que Pléa, qui était un joueur le plus important de la saison dernière, avait déjà disparu. Mais est-ce que ils ont fait vraiment le nécessaire pour avoir l'attaquant? Non. Ils se sont braqués avec l'OM pour récupérer un petit peu d'argent à Balotelli. Ils ont tout perdu parce qu'il a pas joué, mais en plus ils ont pas eu le fameux attaquant.
Mais il en manque beaucoup de choses. Non, mais ça il en manque, mais il en manque aussi. Moi j'insiste là-dessus, il en manque un créateur, quelqu'un qui est capable de prendre le jeu à son compte et de changer de rythme. Parce que très franchement, quand tu vois cette équipe là, elle joue sur un rythme qui est un petit peu mais cette équipe elle joue sur un rythme qui est un petit peu monotone. Alors oui, j'insiste là-dessus, je me répète, c'est il joue bien, il garde le ballon, il y a des belles séquences de possession, mais ça manque, tu vois, l'encéphalogramme est plein en fait. Donc quand c'est plat, il y a pas de vie.
Mais il y a des équipes qui veulent pas jouer avec des meneurs de jeu maintenant.
Et je parle pas d'un meneur de jeu.
Non mais qu'est-ce qu'ils avaient Nice? Un mec comme Siri.
Cyprien. Siri, c'est ton téléphone quand tu lui demandes.
Siri. Un mec comme Cyprien, pareil, qui le faisait.
Exactement.
Lesmelou ces derniers temps avant sa blessure, qui s'est blessé, il le faisait très bien avec l'approche du but. Mais le problème, c'est que
manque d'attaquants. Qu'ils l'ont pas là.
Manque d'attaquants plus 3 milieux de terrain pas à 100%.
Exactement.
Ça te coûte cher.
Et ouais. Mais l'effectif est court, hein. C'est quand même, c'est quand même limite. Tu te dis que c'est pas si, ils s'en tirent pas mal au classement.
Tiens, bah je vous donne le calendrier à venir de Nice. Ils vont recevoir Strasbourg, ils vont aller à Marseille, ils reçoivent Toulouse et ensuite ils iront à Dijon.
C'est pas un calendrier qui est hyper simple
non plus. Non.
De toute
façon, là, il y a rien de simple.
C'est un bon. Moi, je trouve que c'est un bon calendrier.
Tu trouves toi?
On dit les deux premiers matchs qu'on voit dans un bon calendrier.
Strasbourg à domicile.
Strasbourg.
C'est pas facile.
Oui.
Ah bah c'est bon.
À Marseille,
c'est
contre Toulouse à domicile et à Dijon.
Toulouse, ça devrait voilà.
Dijon, ils ont la pression.
Donc Dijon, ils sont en match survie.
Non, et c'est pas forcément.
Dijon, ils sont en match survie.
Dijon à domicile, il faut qu'ils jouent. Ouais. Tu peux profiter des contres que de faire le jeu.
Mais tu sais, les équipes, il y a des équipes comme ça.
Non, il faut que Patrick arrive à trouver cette formule offensive. La Sfarsi, il était blessé, il est revenu.
Ouais.
Donc là, il commence à avoir un peu plus.
Comme un petit farci niçois, qui c'est la spécialité locale qui est délicieuse. Mais non, je pense que le salut de cette équipe, si on veut que Nice, voilà, se remette dans le bon sens, il faut que Cyprien revienne à un niveau qui est supérieur à celui qui est le sien en ce moment.
Gibo,
Oui.
Merci mon Gibo.
Merci.
Tu voulais
à vous.
Rajouter quelque chose ou pas? Il y a un truc qui t'a marqué?
Non, mais moi, ce qui me...
C'est pas Nice qui a marqué,
non,
c'est
par,
sûr.
Par rapport à Amiens, voilà, y a, le calendrier va être, enfin, entre guillemets, va être un petit peu plus aisé.
À Reims contre Nîmes, à Angers, ouais. Et contre Bordeaux.
Exactement.
Ah, c'est beau, ça. Donc, et semblant de rien, ils sont à 3 points de Toulouse et Nantes qui vont jouer demain, et peut-être que ces équipes-là vont être concernées par le maintien aussi, ouais. si elles négocient mal leur...
C'est quoi,
leur
on en parlait ici il y a 15 jours, 3 semaines déjà. Ouais. Eux, il faut vraiment qu'ils s'inquiètent aussi.
Thibaut. Nantes. Toi, oui. tu connais Jean-Marc? Tu le vois, Jean-Marc de la maison du whisky?
Arrête avec ton gars là, mais
Jean-Marc comment?
Jean-Marc de la maison du whisky qui est à Amiens tous les week-ends.
Non, je le connais de nom, mais je l'ai jamais vu.
Voilà. C'est pas bon. On te filera le numéro en antenne.
Ça marche.
Merci Gibo, bonne soirée
à tous.
Ciao. Alors, on vous rappelle donc les résultats
à chaque fois. Hein.
Comment?
Il régale, hein, Gibo. Moi, je trouve que c'est un de nos meilleurs commentateurs.
Ils sont tous excellents.
Ouais, ils sont tous excellents, mais Gibo particulièrement. Ils sont pas pour lui faire une lipette, hein, parce qu'il est parti.
Il veut vraiment récupérer le numéro de téléphone de Clan Campbell, là.
Mais je l'ai déjà, le numéro. Tu crois que je bois ça?
Non, c'est Jacques Daniel, il s'appelle.
Je crois que je bois de ça aussi, c'est horrible.
26e journée de Ligue 1 ce samedi, le PSG a battu Nîmes 3-0, Amiens a battu Nice 1-0, on vient de l'évoquer, et puis Guingamp a battu Angers 1-0. Dans quelques instants on sera avec Antoine, supporter guingampais, qui nous a appelé au 32-16, supporter de Guingamp, supporter Allez. D'Angers, on vous attend au 32-16 avec Ali Benarbia et Jonathan Macart.
Alors coupe un peu leur série là, hein.
RMC Football Show, l'After Foot.